Faut pas accorder trop d'importance à ce congrès, sachant que le Fatah ne représente pas évidemment la totalité de la population palestinienne, ce n'est qu'une partie de l'OLP au départ. Le fait que le Hamas ait gagné aux élections a accentué la fracture entre les formations politiques à l'intérieur de l'OLP et surtout de l'autorité palestinienne. Quand Arafat était aux commandes, toutes les formations politiques respectaient son autorité, Hamas compris. C'est sa succession qui a commencé à poser problème.
C'est le premier congrès du Fatah depuis 20 ans. Quels sont les principaux enjeux ?
Il y a deux enjeux, si vous voulez. Il y a un enjeu de politique interne et un enjeu de politique externe. L'enjeu de politique interne, c'est pour Mahmoud Abbas de se faire confirmer comme le chef incontesté du Fatah. Comme le Fatah était un peu tombé en désuétude, il s'en était pas occupé donc jusqu'à maintenant. Mais là, il réalise qu'avec la coupure de Gaza, il est obligé de retrouver de l'autorité qu'il a perdue en partie, aussi du fait qu'il n'y a pas eu d'élection présidentielle, alors qu'il y aurait dû y en avoir en janvier 2009. Pour la politique externe, c'est de montrer aux Israéliens et aux Américains qu'il y a une continuité et que le Fatah le soutient toujours dans sa politique de négociation, chose difficile à montrer puisque une bonne partie des Palestiniens ne suivent plus cet appel, pas la négociation à n'importe quel prix, si vous voulez.
Quelles sont les grandes divisions qui existent au sein du Fatah ?
Disons, les grosses divisions, elles sont d'abord celles qui opposent les gens de l'extérieur à ceux de l'intérieur. Vous savez, ceux de l'intérieur ont plus de dispositions à la négociation que ceux de l'extérieur qui sont restés assez radicalisés. Ça, c'est une première chose. La deuxième intifada récemment a créé d'autres fractures. Et puis tout ça cache aussi des conceptions différentes entre générations. Ça ne changera pas, si vous voulez, la décision globale de négocier. Mais par contre, ça maintiendra une pression très forte sur le fait de refuser la négociation si c'est au prix de compromis inacceptables, tels que la colonisation est devenue un vrai fléau. Il y a 500 000 Israéliens qui sont installés en Cisjordanie et à Jérusalem, 2 à 300 000 de plus qu'au début du processus d'Oslo. Donc c'est des données gravissimes.
Pourquoi le Hamas a-t-il boycotté ce congrès en empêchant certains Palestiniens d'y participer ?
Le Hamas n'a pas intérêt à voir renforcer l'autorité de Mahmoud Abbas. La raison globale, c'est qu'ils sont sur des positions radicalement divergentes et que le Hamas, en tout cas, ne veut pas soutenir un congrès qui est partisan d'une poursuite de la négociation quand on sait qu'Israël ne fait pas la moindre concession.
Sur la question israélienne, quels sont les points de vue du Fatah et du Hamas ?
Le Hamas, actuellement, ne reconnaît pas Israël en tant qu'État, mais de facto, ils ont quand même amorcé un processus de reconnaissance puisqu'ils ont participé aux élections palestiniennes dans des institutions résultant du processus de paix, des accords d'Oslo. Ça, c'est une chose. Maintenant, pour ce qui est du Fatah, le Fatah ne continue de reconnaître l'existence de l'État d'Israël. Il n'y a aucun délégué qui sera opposé sur ce point. Par contre, il y a une nouvelle exigence israélienne qui a été posée depuis l'élection de Netanyahou il y a quelques mois, qui est la reconnaissance d'Israël comme État juif. Personne au sein du Fatah ne l'accepte parce que ça voudrait dire que on renoncerait quasiment au droit au retour des Palestiniens en cas de négociation.
Mahmoud Abbas sera réélu selon vous ?
Oui, il est quasiment sûr d'être élu président du Fatah. Il aura certainement une opposition, mais elle ne sera pas suffisante. Les gens qui viennent de l'extérieur ne représentent qu'à peine un quart de l'ensemble des participants.